Bonjour à tous, aujourd'hui je suis à Eclipse 14, c'est bien ça, c'est Eclipse 14 hein, Gaël.
Oui je crois, moi c'est la première fois que je viens donc...
Je suis avec Gaël Sacré. Gaël, ça va la pêche?
Ça va, super, super.
Alors qu'est-ce que tu viens présenter là?
Eh bien, je viens présenter mes jeux, le jeu qui va bientôt sortir, qui s'appelle Happy Together.
Ah oui, mais tiens, c'est incroyable. Il y a des relecteurs fantastiques sur ce jeu.
Ouais. Un certain Romaric Brillant, je crois, ouais, qui m'envoie des manuscrits avec beaucoup d'humour.
C'était très drôle.
Ok, alors c'est quoi finalement Happy Together? C'est une volonté de jouer à Happy, mais cette fois-ci à plusieurs, quoi.
Oui, alors à la base, c'est ça. C'était plutôt un hack de mon propre jeu Happy, mais pour jouer à plusieurs. Finalement, c'est devenu quelque chose d'assez différent. Il a vraiment évolué. Autant Happy était vraiment centré sur la méditation, sur quelque chose de très positif, etc. Autant Happy Together est devenu un jeu assez doux amer en fait, finalement, où on a des personnages qui essayent de trouver le bonheur dans des choses simples, mais avec il y a toujours un fond assez spirituel, assez aussi parfois sombre. On peut aussi jouer j'ai des gens qui ont fait des playtests dans des environnements des fois où j'aurais pas pensé, notamment Thomas Munich qui nous a joué avec des bikers par exemple. Donc voilà, il y a moyen de faire des choses extrêmement intéressantes où en fait on se retrouve finalement avec des personnages un petit peu paumés dans la vie qui ont. J'ai ajouté aussi un petit élément qui s'appelle la quête, qui est une sorte de quête spirituelle qu'ont les personnages, qui est aussi inspiré du développement personnel et qui ajoute énormément de profondeur au jeu et qui fait que on a comme ça un petit peu des âmes errantes qui se rencontrent, qui essayent de trouver leur chemin qui essayent de trouver un petit peu leur place dans le monde, quoi.
Ça, Happy, c'était un jeu un petit peu feel good, et puis là finalement, même en jugé par la couverture, qui est assez une photographie en fait d'une ville au crépuscule, c'est un peu Happy by Night, quoi, finalement, Happy Together, j'ai l'impression.
Ouais, c'est un peu ça. C'est vrai que dans la couverture, j'ai voulu essayer de retrouver ce côté un peu doux amer, c'est-à-dire que il y a quand même des couleurs assez chaudes, assez il y a le côté happy quand même, mais je voulais apporter une petite nuance parce que c'était forcément facile que les gens se disent c'est Happy Together, du coup ça va être un jeu où on joue des bisounours, où tout le monde est content. On peut le jouer si on veut comme ça, on peut jouer des choses un peu à la mon voisin Totoro ou au Kiki la petite sorcière si on veut vraiment jouer dans des trucs un peu mignons, etc. Mais si on a envie vraiment de jouer des personnages un peu plus complexes, un peu comme dans des films indépendants américains ou des genres de choses comme ça, ou pas forcément américains d'ailleurs, des films indépendants en général où on a comme ça des personnages assez complexes, des subtilités, et c'est un jeu qui a pas vraiment de fin aussi, un peu comme ces films justement indépendant où des fois on arrive et le jeu est terminé et en fait comme un film en fait d'un coup tu fais ah tiens c'est terminé, on a partagé une tranche de vie de personnages qu'on connaissait pas et qu'on a appris à connaître et que qui ont noué comme ça des liens et voilà, c'est un jeu qui s'est révélé en plus, moi c'est vraiment, il a évolué comme ça, qui s'est révélé assez subtil et je suis encore assez bluffé là. Hier on a fait encore une partie en pleine nuit après le premier créneau et les gens m'ont surpris encore de comment ils s'approprient en fait le jeu et comment ils vont loin en fait dans l'interprétation de leur personnage.
Alors on rappelle, hein, ça s'appelle Happy Together. Moi, j'ai le petit livre en main, c'est un format très spécial, hein. C'est du quoi, c'est du A, c'est pas du A5, c'est encore plus petit que du A5. C'est vraiment tout mignon, il y a une très très belle mise en page. Tu le vends déjà là sur le stand ou pas? On peut en acheter déjà là?
Non, pas encore. Là, en fait, c'est là, il y a deux exemplaires. Il y en a un d'ailleurs qui est. On voit que c'est un exemplaire test qui a eu des soucis d'impression.
Ah, la vache, oui.
Ouais. Et là, c'est le premier exemplaire qui, ça y est, qui commence à avoir une. Donc, je pense qu'il y aura peut-être encore un ou deux exemplaires test pour vraiment gérer les petits peaufinages, etc. de dernière minute. Mais il y a des chances que le jeu sorte d'ici quelques mois. Ouais, le temps de.
Ça vient vite.
Ouais, le temps de faire un petit peu de com aussi, parce que du coup il n'y aura pas de crowdfunding pour ce jeu-là, c'était un choix de ma part, donc du coup il va falloir que je pense à autre chose pour comment faire en sorte de créer une communication quand même intéressante autour du
jeu. Tu vas aller sur Lulu ou pas?
Ouais, là, donc le jeu, là c'est de l'impression Lulu, donc il sera disponible sur lulu.com dès sa sortie, avec une, je pense, avec un PDF aussi. Donc on pourra aussi le mettre sur son smartphone, sur une tablette, et puis jouer un peu où on veut. L'idée, c'est que donc c'est vraiment un format poche, c'est pas du A5, c'est le format poche de Lulu. Donc ça ressemble un peu à comme on pourrait acheter un roman, en fait, un tout petit roman, quoi, de 40 pages. Et on peut le mettre dans son sac, on peut le mettre ou alors en PDF sur son smartphone, et on peut y jouer partout. Le jeu est fait vraiment pour. On lit, en fait, même si on n'a jamais lu. À la limite, on peut le lire.
Oui, c'est ce qu'il faut dire, c'est que c'est un jeu qui est très court. Ça fait quoi, 26, 27, 30, une trentaine de pages, quoi. Quarantaine de pages, on va dire. Donc, ouais, ça, et c'est un petit format, donc ça se lit bien.
C'est ça, voilà. Et j'ai fait en sorte qu'on puisse le lire. Enfin, c'est-à-dire qu'on se réunit entre joueurs, même si vous ne l'avez jamais lu, vous lisez juste ce qui a marqué, vous suivez les instructions. Normalement, vous pouvez jouer directement. Donc, on ne peut pas faire plus clé en main que ce jeu-là, quoi.
D'accord, ok. Autrefois, on te trouvait sur le forum Les Ateliers Imaginaires. Aujourd'hui, il est fermé. Vous avez lancé une nouvelle structure collective qui s'appelle Courant Alternatif. Tu y es. Tu as ton jeu exposé là-bas. Comment ça se passe?
Alors là, la plateforme qu'on a créée, le site, est encore en construction, on est encore en discussion. Donc, il n'y a pas encore, il y a un forum qui c'est vrai, qui ressemble un petit peu aux ateliers imaginaires. Par contre, il n'y a pas encore de librairie, il n'y a pas encore, voilà, le site est encore assez, voilà, c'est tout neuf, quoi. Donc, on est en train de réfléchir à des modules, à comment on va organiser cette nouvelle communauté. Et voilà, donc ça se fait petit à petit, on discute. Et comme on est parti sur un fonctionnement, pas en termes de d'auteur, mais plus vraiment communautaire, assez horizontal. Donc du coup, ça veut dire que on cherche le consensus, donc ça prend beaucoup plus de temps, on doit faire des discussions assez longues, mais ça se fait petit à petit. Et la grosse discussion effectivement en ce moment, c'est la librairie, c'est comment on sélectionne les jeux, puisque là on n'est pas forcément parti sur l'idée de l'indépendance telle qu'elle était prévue, enfin telle qu'elle était définie sur les ateliers. Donc la grande question, c'est comment on choisit les jeux, comment on les montre, comment on les met en avant. Et comment aussi on va pouvoir peut-être créer une force, parce que la grande question qu'on se pose aujourd'hui, c'est on n'a pas, en tant qu'indépendant en général, ou en tant que petit auteur, on a du mal en fait à promouvoir ces jeux. Donc l'idée, c'est comment on peut essayer de faire une communauté qui va être un peu présent partout en France et qui va pouvoir avoir une force à peu près équivalente à un éditeur qui peut être facilement présent partout. Donc on réfléchit à un système, par exemple, communautaire où en fait tout le monde, par exemple, moi par exemple là je viens, là aujourd'hui je présente que mes jeux, mais on pourrait imaginer par exemple que en fait je présenterai tous les jeux des courants alternatifs, ceux qu'on aurait sélectionnés, et quelqu'un d'autre au bout de la France pourrait faire la même chose, et du coup mon jeu il serait potentiellement partout en France et les jeux des autres aussi. Donc on réfléchit à ce mode de fonctionnement, mais pour l'instant c'est encore
Et c'était un peu ce qui se passait aussi avec les ateliers, mais c'était très informel. Là, ce que vous voulez, c'est vraiment formaliser pour en faire presque, j'allais dire, un éditeur collectif finalement.
Ouais, ce serait
un distributeur collectif.
Ouais, ce serait une sorte de, ouais, ce serait quelque chose comme ça. Bon, alors pour l'instant il n'y a vraiment rien de décidé, c'est vraiment ça se trouve on va pas réussir à se trouver un terrain d'entente et chacun va faire un peu sa sauce, mais c'est vrai que pour l'instant on se dirige sur ce genre de choses, sachant qu'on a vraiment une volonté d'ouverture avec les courants alternatifs. Donc on veut pas seulement être juste un forum, on veut vraiment promouvoir les rencontres IRL, qu'on se voit vraiment en vrai, en convention ou pas, ailleurs, et même aussi en virtuel, c'est-à-dire organiser des parties virtuelles. Il y a déjà l'auberge virtuelle certains sont déjà assez présents, mais voilà, on aimerait aussi pouvoir comme ça organiser des parties et que les membres des courants alternatifs puissent se rencontrer et qu'il y ait des vrais échanges et pas seulement purement forumique, quoi.
Ouais, bien sûr. Gaël Sacré, tu es aussi vidéaste, tu fais aussi des vidéos sur YouTube, notamment une série d'émissions qui s'appelle Mandala. Est-ce que tu pourrais nous en parler là rapidement, histoire que les auditeurs de la cellule aillent aussi voir ces vidéos que je trouve personnellement de très bonne qualité?
Alors Mandala, c'est une chaîne YouTube et Dailymotion, actuellement en tout cas, qui est aussi sur un site qui s'appelle Junk Food Factory. Donc je fais partie d'un collectif de vidéastes, l'idée c'était de parler de jeux de rôle, les jeux de rôle un peu que moi je pratique, donc plutôt ce que j'appelle les jeux de rôle alternatifs, les jeux de rôle indépendants, forgiens, post-forgiens, tout ce que vous voulez, et c'est vrai que je trouve qu'il y a une surreprésentation des podcasts aujourd'hui dans le jeu de rôle, notamment un excellent qui s'appelle la cellule, je crois.
Ouais, c'est ça.
Mais il y en a d'autres. Hein. Mais c'est vrai que je trouve qu'il manque de vidéos, un petit peu des formats courts, comme on peut trouver un petit peu dans les podcasts YouTube aujourd'hui, qui sont assez. Un podcast, souvent, c'est une heure et demie, voire plus. Et donc, ça demande quand même un certain investissement en temps. Et tout le monde ne l'a pas. Et les gens qui sont rôlistes confirmés, on va dire, ne vont pas hésiter à prendre ce temps pour écouter des podcasts un peu pointus. Par contre, des gens qui ne s'intéressent pas forcément d'hyper près comme ça au jeu de rôle, ou même des gens qui ne connaissent pas. Parce que moi, j'étais surpris de voir, par exemple, ma première vidéo a été vue par pas mal de gens qui ne connaissent pas le jeu de rôle et qui ont été surpris de voir. Notamment là je parlais des formats dans le premier épisode, de voir en fait qu'il y avait tout un tas de façons de présenter un jeu de rôle, en tout cas le manuel du jeu de rôle. Et j'insiste bien d'ailleurs dans la vidéo sur le fait que ce sont des manuels de jeu de rôle et que la partie finalement c'est ce qu'on joue vraiment autour de la table, donc il y a aussi tout un jeu là-dessus. Donc voilà, j'essaie d'avoir des réflexions, de questionner un petit peu le jeu de rôle, voilà. Mais actuellement donc il y a quelques vidéos, j'ai pas eu trop le temps, donc ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de vidéo, mais c'est quelque chose que je garde en tête, que j'ai vraiment envie de développer, peut-être à l'avenir aussi créer des formats encore plus courts, un peu en mode podcast mais avec de la vidéo, mais voilà, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire qui serait vraiment complémentaire avec les podcasts assez longs, où on pourrait un petit peu, j'ai aussi des idées de vulgarisation aussi, c'est un truc qui notamment on parle souvent notamment à la cellule des théories forgiennes, etc. Et c'est vrai que bon, étant assez proche de Frédéric Sintès, j'ai pu un peu comprendre un peu tout ça, donc j'aimerais bien essayer de montrer ce savoir-là, non pas dans des articles qui sont parfois un peu difficiles à rentrer dedans, mais essayer de faire des vidéos vraiment de vulgarisation. Mais bon, ça demande un gros travail, donc ça sera pas pour tout de suite, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur.
Ok, bah c'est très intéressant tout ça. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Donc sur Courant Alternatif, on l'a dit, on le répète. Donc deux jeux, Happy Together. Happy qui est un jeu qui se joue en solo, Happy Together qui se joue donc à plusieurs. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce qu'il y a un endroit où on peut facilement discuter avec toi et éventuellement télécharger ou acheter Happy et Happy Together?
Oui, alors donc il y a le site maîtrebois.com. Donc tout attaché, et puis effectivement vous pouvez me trouver sur les courants alternatifs, et puis le prochain jeu aussi que je vais présenter.
Ah, t'as un autre jeu, Imaginarium.
Voilà, que je vais présenter ce soir, il est encore un peu en playtest, mais il tourne bien maintenant. Donc c'est un jeu dans lequel on joue des enfants qui vont être plongés dans un monde imaginaire, un peu à la Narnia ou la Peter Pan, et qui vont se confronter en fait à leurs peurs et notamment à leurs traumatismes sous forme symbolique, avec des créatures fantastiques, avec notamment un némésis. Chaque personnage va avoir ce qu'on appelle un némésis, c'est une sorte de figure, soit paternelle, maternelle, qui va représenter un petit peu ce traumatisme et comment on va arriver à s'en dépêtrer pour pouvoir revenir dans le monde réel, sans quoi on pourrait rester bloqué dans le monde de symphonie, ça s'appelle comme ça.
Voilà. D'accord, bon, heureusement que c'est une symphonie et pas un requiem.
Exactement, et la particularité aussi d'Imaginarium, c'est que il y a un MJ, contrairement à Happy Together, mais par contre c'est assez collaboratif dans la mesure où...
T'es très collaboratif toi, j'ai l'impression. Hein.
Oui, quand même.
Je dirais pas que t'es un collabo, mais...
On va pas aller jusque là quand même. Et donc, en fait, la particularité du jeu, c'est que les enfants en fait, qu'on incarne connaissent le monde dans lequel ils vont être plongés, puisque c'est un livre qu'ils lisent depuis et qui sont gamins, qui s'appelle Imaginarium, et qui décrit déjà ce monde. Donc en fait, à tout moment, les joueurs peuvent dire « Ah, mais moi, je me souviens de ce lieu-là où il y avait tel personnage. » Et du coup, ils peuvent, comme ça, participer aussi à la création de l'univers, sachant qu'il y a une base, en fait, comme ça, que le MJ va présenter au début. Donc tout le monde a accès, en fait, à l'univers. Il n'y aura pas un univers de 300 pages. Ce sera vraiment juste des bases. Et après, on va pouvoir développer. Et chaque partie, chaque campagne, il y aura son univers qui va être développé. Et voilà.
Attention, là, je vais te poser une question piège. On voit bien ces derniers temps, Summer Camp, Perdu sous la pluie, les indépendants s'attaquent énormément à la thématique de l'enfance et fait jouer en fait à des rôlistes finalement assez âgés, peut-être même en âge de devenir papa ou maman, des enfants. Comment est-ce que tu expliques comme ça l'émergence de ces thématiques? Pourquoi est-ce qu'on fait jouer des enfants en ce moment? Est-ce que tu as une explication? Pourquoi en tout cas toi tu as eu envie de faire jouer des enfants sur ce coup-là? Enfin de faire en sorte que des joueurs jouent des enfants, pardon.
Alors déjà, je pense qu'il y a déjà plusieurs choses. Dans les jeux un petit peu comme ça, on va dire alternatifs, déjà, il y a souvent on a tendance parfois à jouer des personnages différents que juste des hommes ou des femmes de 30, 40 ans ou même plus jeunes. Et donc, on retrouve quand même il y a des jeux comme Blistage où on joue des adolescents. Donc, on retrouve déjà ça. Mais après, pourquoi les enfants en ce moment, là, c'est vrai qu'il y a une salve un petit peu de jeux où on joue des enfants, je saurais pas expliquer. En tout cas, pour ma part, c'est vraiment un jeu très personnel qui parle vraiment de ce que c'est de grandir en fait, qui pour moi était une étape assez compliquée de ma vie. Et donc,
T'es resté un grand enfant, je te rassure.
voilà, c'est ça. Mais je pense d'ailleurs c'est un jeu qui va peut-être parler à pas mal de rôlistes parce que quand on est rôliste, souvent on est un peu un grand enfant, on a du mal à se détacher d'un certain nombre de choses.
C'est aussi le regard que la société porte sur nous en général. Moi, je me fais traiter de grand gamin par mes parents, par mes grands-parents, voilà.
C'est ça, voilà. Mais voilà, donc c'est un jeu vraiment, vraiment très personnel. J'ai toujours été fasciné par Peter Pan, par ces films-là comme Narnia, etc. J'avais envie de créer quelque chose comme ça qui parle du fait de grandir. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on doit abandonner? En fait, le jeu parle de ça finalement. Qu'est-ce qu'on doit abandonner pour pouvoir accepter de grandir? Qu'est-ce qu'on y gagne? Qu'est-ce qu'on y perd?
Intéressant. Bah merci Gaël pour cette petite interview, puis on se revoit dans le courant de cette convention. À plus.
Yes, avec plaisir. À bientôt.
Alors là, je me retrouve sur un stand inconnu avec une personne inconnue, un jeu qui s'appelle Doxa, c'est bien ça?
Oui, c'est bien ça. Hein.
De quoi qu'il s'agit? Tu peux nous le présenter rapidos?
En fait, c'est un univers cyberpunk où il y a des écarts technologiques très impressionnantes qui est dû à cause d'une richesse monopolisée. Qui fait qu'au final, on va se retrouver avec des environnements très futuristes et d'autres plutôt médiévales, voire préhistoriques. Et on va incarner dedans des anti-héros, donc des bikers, des rebelles qui essayent de fuir ce monde ou de le défendre, mais en tout cas d'y survivre.
C'est un petit peu proche d'un univers comme Mad Max, si j'en juge par la couverture du jeu, avec une moto, mais en même temps des sabres, des épées, un espèce de Mad Max avec du médiéval fantastique dedans. Enfin,
Mad Max, ça se rapprocherait plus du post-apo. Là, on est plus dans un univers cyberpunk où il y a une société qui a repris place, qui contrôle vraiment les gens, qui contrôle le monde extérieur, qui va aller faire de l'esclavage, qui n'y a pas vraiment dans Mad Max, enfin, même s'il y en a un peu. Mais c'est un peu cette idée-là que quand il y a des gens du monde développé qui vont dans ce monde sans la ressource importante, c'est un peu cet esprit d'arriver dans des paysages désolés avec des épées, des voitures et tout, alors que. C'est pas ce qu'on y trouve.
T'as une team, tu développes ça avec un groupe, avec un éditeur ou non, t'es tout seul
Je suis tout seul avec Ephraim, qui est mon co-auteur. Et on a réussi à récemment publier notre démo aux éditions Imagivienne. Et actuellement, on est encore en recherche d'éditeur pour une possible édition d'un livre plus grand.
D'accord, ok. Donc c'est le petit ouvrage que j'ai dans les mains là, en format A5. Il y a quoi? Il y a une trentaine de pages environ. C'est un kit de démo en fait, c'est ça?
Oui, c'est un kit de démo. On peut y trouver un scénario, quelques personnages, un système expliqué brièvement et un univers également.
Alors, comment ça se joue? Tu peux nous expliquer rapidement? Il y a un meneur de jeu ou alors...
Oui, il y a un meneur de jeu. Ça se joue comme tous les jeux de rôle classiques. On s'est inspiré de Basic, qui est le système de Cthulhu. Mais on a essayé de l'adapter à notre univers pour que ça soit encore plus simple. Donc du coup, on a un système de D20 inversé en soi. On va avoir... des compétences sur 20, on va avoir une valeur, par exemple 15. Si je fais en dessous, j'ai réussi. Si je fais au-dessus, j'ai raté. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur le jeu.
D'accord, je vois qu'il y a un casque de réalité virtuelle sur la table. Il y a quelque chose qui joue avec la réalité virtuelle dans Doxa ou c'est une pure coïncidence?
Alors, il y a quelque chose qui joue avec la réalité virtuelle, mais c'est aussi parce qu'en fait, on développe une chaîne YouTube qui s'appelle NovaCorp, qui se base dans l'univers de Doxa, qui met en scène Toguza, un hacker du monde de Doxa, justement. Qui se sert justement de ce casque pour se projeter dans la matrice et dialoguer avec une IA pour présenter des œuvres cyberpunk terriens.
Donc il y a une espèce de chaîne YouTube du jeu, c'est ça, qui en parallèle au développement du jeu, c'est ça?
Voilà, c'est ça.
Ah, c'est intéressant ça. Donc vous développez finalement le jeu à travers cette chaîne YouTube et en même temps dans les bases de votre gamme.
Voilà, c'est ça. On développe plus notre gamme de base et notre contenu vidéo s'adapte au jeu plus que l'inverse. Mais voilà, en soi, c'est ça.
Si je veux le trouver, Doxa, je fais comment? Je vais où?
tu peux aller sur le site Facebook de Doxa, où dedans tu trouveras une version PDF d'un scénario qu'on donne gratuitement, de notre démo aussi. Tu peux aller en convention où tu nous retrouveras. Tu peux aussi aller sur le site d'ImageVN où normalement tu nous trouveras également.
Ok, ben je te remercie. À bientôt.
À bientôt.
Toujours à Eclipse 14, à Rennes. Et à Rennes, bah, qui est-ce qu'on trouve? On trouve des Rennais. Et parmi les Rennais, bah, il y a Manuel Bédouet. Manuel, ça va la pêche?
Bah écoute, oui, ça va très bien, merci.
Alors aujourd'hui, tu es venu présenter un jeu que je ne connais point, dont j'ai entendu parler néanmoins, les marches, aux marches du pouvoir, ça s'appelle. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement? Qu'est-ce que c'est que ce jeu?
Eh bien, écoute, c'est un jeu qui est en plein dans l'actualité, parce que c'est un jeu où on joue des ambitieux sur des thématiques assez politiques. C'est un spin-off de Sur les frontières. Cette fois-ci, plutôt que de jouer justement les frontières, on va jouer à la capitale et on va jouer des gens qui veulent gravir les marches du pouvoir, justement.
Alors un des points d'originalité de ce jeu, moi quand je l'avais vu déjà, c'était à Equinox hein, l'année dernière que je l'avais vu, c'est qu'il est en format gigantesque. C'est quoi? C'est du A3, c'est ça? Non, c'est plus que du A3 même.
Ouais, le A3 c'est trop petit. Cher ami, c'est du A1, ça fait 85 cm par 60.
C'est du A1 ça, putain, vache.
Donc ça fait une affiche, quoi, une affiche recto verso, avec d'un côté les règles du jeu et de l'autre côté un plan de la capitale qui va servir un peu de tapis de jeu plus que de plateau, et puis un peu de mémo puisqu'on retrouve dessus ce qu'on appelle dans le jeu les icônes, c'est-à-dire les factions, les lieux, les personnages importants de la capitale que vont croiser les ambitieux des joueurs.
Alors ça c'est génial, c'est-à-dire qu'en fait moins que une affiche, moi je parlerais plutôt de carte, c'est une carte en fait qu'on achète et derrière la carte on trouve les règles du jeu, on va pouvoir jouer sur la carte. C'est vraiment du jeu de rôle, tu l'as pas encore précisé, c'est pas du jeu de plateau.
Non, c'est vraiment du jeu de rôle. Alors il y a des gens qui disent que c'est pas du jeu de rôle parce que c'est un jeu sans meneur et qui se joue avec des dominos, mais c'est quand même du jeu de rôle. Je puise mes inspirations dans des trucs comme Fiasco, comme Remember Tomorrow, comme d'autres, hein, tu sais, tous ces gens qui font des jeux bizarres, voilà, je les regarde faire et puis je leur dis, oh là là, il y a des bonnes idées. J'essaye de bricoler autour de ça. Et puis, ouais, je me suis lancé plusieurs défis créatifs. Il y avait effectivement le format et puis le fait d'utiliser des dominos, qui est un objet ludique que je trouve intéressant, avec lesquels on peut faire plein de choses, qui pour moi collait bien avec des thématiques politiques, pour raison que je m'échappe, je trouve que ça marche bien ensemble.
Ouais, c'est un des symboles de l'effet boule de neige, quoi. Tu lances un domino et les conséquences défilent, tu sais, le fameux jeu où tu poses des dominos debout.
C'est ça. Alors pour un jeu politique, on aurait pu faire aussi des châteaux de cartes, mais c'était quand même très très compliqué. Mais avec des dominos, on peut faire des choses. Et on peut faire tellement de choses que ça a été pour moi le truc le plus compliqué pendant la conception du jeu que de décider ce que je n'allais pas faire avec. Mais du coup c'est bien parce que ça me laisse quand même une réserve de potentiellement pas mal d'autres jeux avec des dominos. Donc si vous aimez bien mes jeux, achetez une boîte de dominos, vous allez pouvoir la remplir.
D'accord. Alors moi c'est comme ça, hein, que j'en avais entendu parler. Parce que du coup comme moi j'utilise les échecs pour faire du jeu, des cartes à jouer traditionnel pour faire du jeu, on m'avait dit « Ah mais figure-toi que tu pourras pas utiliser les dominos, le créneau est pris par Manuel
!» Alors non, parce qu'il y a déjà plein de jeux qui utilisent des dés, je pense qu'il peut y avoir plein de jeux qui utilisent des plateaux d'échecs ou des cartes ou des dominos.
C'est ça.
Il y a des choses très différentes à faire avec, mais effectivement c'est un truc qui est intéressant que les concepteurs de jeux vidéo ont compris depuis longtemps, c'est que l'interface, le contrôleur, c'est comme ça qu'on appelle ça en jeu vidéo, la manette, clavier ou autre, ça a un impact fort sur le jeu. C'est pas pour rien que la Wii est ce qu'elle est, parce que son contrôleur, c'est un contrôleur à mouvement, ça change plein de choses. En jeu de rôle, j'ai l'impression qu'on a mis un peu plus de temps à réfléchir là-dessus, et qu'effectivement, quand on fait de raid avec du Jenga, on propose plus les mêmes expériences de jeu, et c'est le contrôleur, c'est la façon dont on interagit avec l'histoire du jeu qui change la relation qu'on a à ce jeu.
Voilà. Est-ce que c'est pas parce que le jeu de rôle, justement, une de ses marques de fabrique, c'était justement à une époque de n'utiliser rien d'autre comme matériel qu'une feuille de papier, un crayon et des dés? Pendant très longtemps, c'était de l'ADN du jeu de rôle que justement de ne pas vendre de matériel, tu vois ce que je veux dire? C'est peut-être pour ça. Mais je suis d'accord avec toi, hein, bien sûr, c'est pas moi qui vais te dire le contraire.
Mais en même temps, depuis le début du jeu de rôle, on utilise des dés chelous, quoi. Enfin, je veux dire, pourquoi est-ce qu'on n'en est pas resté juste au D6? C'est en soi, on trouve tout à fait normal en jeu de rôle d'utiliser des dés à 20 faces, mais on trouve bizarre d'utiliser des dominos. Faut quand même être drôlement tuyauté pour penser ça.
Je trouve ça, on trouve plus ça trop bizarre d'utiliser du matériel maintenant dans le jeu de rôle. Je trouve que ça commence à se démocratiser, les jeux avec du matériel. Regarde, avec les crowdfunding notamment faits par Sans Détour, où ils vendent énormément de matériel dans leur campagne, des cartes qui symbolisent des personnages et compagnie, ça se fait de plus en plus quand même. Regarde Shan Renaissance,
ouais. T'as un jeu de cartes. C'est toujours un peu des aides de jeu, c'est pas au centre de l'expérience de gameplay.
Tu as raison.
il y a toujours des dés quelque part, très souvent en tout cas. C'est toujours un truc un peu en plus qui va servir dans un cadre spécifique. Moi, quand je dis mon jeu, son système de résolution, il est à base de dominos, une des réponses que j'ai régulièrement, c'est ah ouais, le prochain, tu le fais avec des Mikado. Enfin, il y a un côté un peu gadget, quoi. Alors que, en réalité, c'est plus inhabituel, et je l'entends bien, mais c'est pas plus con que d'utiliser des dés à 20 faces, ou à 12 faces, ou à 4 faces. Le D4, c'est quand même une idée très très étrange, ne serait-ce que parce qu'il roule très très mal.
En fait, ce que tu dis là, c'est que finalement, les cartes et les accessoires qui sont donnés dans les jeux de rôle traditionnels en général, comme on a dit tout à l'heure, donc Shane Renaissance, Sans Détour et compagnie, finalement, les cartes, les enlever ou les ajouter, ça n'a pas beaucoup d'impact sur l'expérience. Alors que toi, jouer à ton jeu sans domino, ça n'a juste pas de sens.
Bah, ça marche pas, voilà, mais comme jouer à... Alors, il y a eu des choses hein, qui ont été tentées. Il me semble que c'était sur Dragonlance, où on avait un système de résolution à base de cartes. Et effectivement, les cartes, ça implique des notions de choix, des notions de finitude. C'est pas la même façon de jouer. À un moment, l'interface, la changer, c'est intéressant si ça change la façon de jouer. Avec les dominos, moi, j'ai utilisé le fait qu'on a deux valeurs par domino, systématiquement, et ça permet de faire des choses intéressantes sur la création de personnages, sur le déroulement de partie. Et puis, il y a 7 valeurs dans les dominos, ça va être 0 à 6. En plus, les dominos, c'est rigolo, ça ressemble quand même à des D6 au niveau du marquage. Mais il y a 7 valeurs au lieu de 6, donc j'ai 7 thématiques avec à chaque fois des déclinaisons. Ça me structure le jeu, quoi. Le jeu, il est structuré autour de cette mécanique. L'univers, il est structuré avec. Tout ça est fait pour aller ensemble.
De toute façon, c'est sûr, on le testera à la cellule, donc on aura l'occasion d'en reparler de ce jeu. Il est, encore une fois, indépendant. J'imagine que c'est toi-même qui édite ce jeu. Est-ce que tu passes par un crowdfunding cette fois-ci ?
Alors oui, parce que jusqu'ici, je suis passé par de l'impression à la demande via Lulu.com, mais Lulu.com ne fait pas de A1, encore moins recto verso. Donc il a fallu changer un petit peu son fusil d'épaule. Pour plein de raisons, notamment le fait qu'il me fallait des sous en avance pour imprimer les exemplaires. Je passe par un financement participatif, parce que du coup, ça paye les impressions. Ça me permet de payer aussi assez rapidement, même s'il est payé de toute façon, mais ça me permet de récupérer des fonds pour payer Grumpf, qui a fait les illustrations, puisque comme c'est un spin-off de Sur les frontières, on essaie de garder un petit peu le même univers graphique quand même. Ça me sert aussi à payer... on va dire de l'emballage. C'est un objet un peu particulier. J'ai envie qu'il soit dans un emballage qui mette en valeur cette notion de bel objet. Donc voilà, c'est tout ça, plus les envois, évidemment, le pourcentage de Ulule et compagnie. Donc ouais, il y a un financement qui est en cours. Il a été lancé fin mars, le 23 mars, si je dis pas de bêtises.
Oui, donc là, on est en cours, hein, parce que la diffusion de cette interview sera tout de suite après ou quasiment la semaine prochaine. Hein, donc,
Ça veut dire qu'il doit rester 2-3 semaines pour participer au financement. Au jour où on l'enregistre, on a 90% sur la somme initiale. Il y a quelques paliers. Oui, j'ai mis des paliers. Il y a une aide de jeu avec des cartes qui servent de mémo. J'ai des protos qui sont présents sur le stand de Eclipse.
Ça ressemble à des tarots, hein, un petit peu.
Et puis il y en a 21 comme dans un tarot, c'est ça qui est bien fait, qui servent en même temps de mémo pour les joueurs. Il y a le troisième jeu de la série qui s'appelle Monstre, qui est un mini jeu de rôle grandeur nature qui se joue à deux, avec des mécaniques qui cette fois-ci sont inspirées de Ni Oui Ni Non et de Colin Maillard. Et puis il y a un hack, une variation autour de Aux Marges du Pouvoir, avec les mêmes règles, mais où, en changeant des éléments d'univers, on propose de jouer à Hollywood dans un univers contemporain.
D'accord, ok. Bon, c'est très intéressant tout ça. Je vous invite vivement à aller regarder sur le Ulule et à participer à Aux Marges du Pouvoir, finalement.
Voilà, et puis en plus, c'est pas très très cher. Mais puis c'est la période pour mener une campagne, donc votez pour moi.
Allez, à bientôt, Emmanuel. Salut.
Salut.
Je suis toujours à Eclipse et là j'arrive sur un stand étrange avec des pièces en chocolat, des cartes à jouer.
Des pièces en chocolat pour Pâques.
Ah d'accord, il n'y a pas un système de jeu avec les pièces ?
Avec des jetons, tout à fait. Mais comme c'est Pâques, c'est des pièces en chocolat. Comme ça les joueurs, quand ils gagnent beaucoup de mises, ils mangent plus de chocolat que d'habitude.
Alors qu'est-ce que c'est ? Il y a une carte aussi, j'ai l'impression, en dessous de ton matériel. Il y a des jeux de cartes. Ah, je décris rapidement le stand parce que c'est ça qui est rigolo. Il y a des, donc ces pièces en chocolat, des cartes étalées comme si on avait, on venait de quitter le comptoir c'est et ça, quelqu'un.
Voilà. La table de poker.
Voilà, il y a une carte qui a l'air assez sombre, assez polar, assez thriller sous le jeu. Et il y a une mallette de poker. Et un livre, Les Rois de New York, le coup de poker, sous-titré. Un jeu dont vous êtes le héros par Patrick Delmotte. J'imagine que Patrick Delmotte,
c'est toi. C'est moi, tout à fait.
Alors tu nous expliques, qu'est-ce que c'est ?
Alors qu'est-ce que c'est ? Dans Les Rois de New York, on joue des mafieux à New York aujourd'hui. Et comme tout mafieux, on joue au poker pour le système, tout simplement. Donc il y a évidemment MJ qui sert de croupier et les autres joueurs qui jouent contre le croupier. Donc les joueurs ont des jetons pour miser.
Alors ça c'est intéressant, c'est un poker dans lequel on joue contre un croupier.
C'est ça. Bon, dans le jeu on l'appelle le meneur, mais sinon pour faire un truc similaire ça fait un croupier. Et donc, les joueurs ont des jetons, le meneur a ses propres jetons, qui sont identiques, d'accord ? Et il joue. Et puis, à un moment, y a quelqu'un qui dit quelque chose qu'il ne faut pas. Par exemple, le meneur, il n'est pas d'accord. Donc, il dit, fais un tirage, d'accord, pour voir si ça marche. Ouais. Le joueur fait son tirage selon sa caractéristique. Ouais. Donc, s'il a combat à 3, il tire que 3 cartes, par exemple.
D'accord, ouais.
S'il a 5, il tire 5 cartes. Si dans ces 5 cartes, il y a une combinaison comme une paire, ouais, il gagne.
D'accord.
Tout simplement. Par contre, moi, le croupier, le meneur, je peux dire, non, je ne suis pas d'accord, et je mise un petit jeton. Et du coup, le joueur, il peut dire, écoute, moi, je suis pour un coup de poker. D'où le sous-titre, coup de poker.
Coup de poker, d'accord. C'est une mécanique de jeu, en fait.
C'est ça. Et là, le meneur, il dit, écoute, je suis d'accord pour le coup de poker, je te suis. Et là, on fait un Texas Hold'em. Le Texas Hold'em, c'est on a des cartes à l'envers.
D'accord.
Alors, dans les rues de New York, on n'a pas de points durs, on a des points de chance. On en a 5 au début, tout le monde en a 5. Et donc, on va mettre les 5 cartes. Le joueur a toujours ses cartes qu'il a prises au début. Et le meneur, chaque tour, il va dévoiler une carte pour demander si le joueur a une bonne combinaison.
D'accord.
Sachant que là, maintenant, il faut un brelan. Une paire, c'est plus suffisant, il faut un brelan. Et donc, au fur et à mesure, il peut dire « je me couche » ou « je continue ». S'il se couche, il a raté. Mais au moins, il prend pas de perte de chance, il prend pas de dégradation. Mais au moins, c'est raté pour lui. S'il continue jusqu'au bout et qu'il gagne, l'action est réussie. Par contre, ça peut être à coup de chance. Du coup, il perd de la chance. Ou alors, il se fatigue. Du coup, il a des points de dégradation.
D'accord. Et la fiction se passe autour d'une partie de poker dans ton jeu ? À la façon du Kid de Cincinnati ou tu connais ce film?
Non,
Kid
pas du tout.
Ça, c'est génial. Ah, alors là, si tu aimes le poker, si tu aimes ce genre d'ambiance, je te conseille le Kid de Cincinnati. C'est un film avec Steve McQueen.
Ouais.
C'est fantastique. Ouais. Ah, vraiment, ah, vraiment. Si tu aimes les cartes, si tu aimes le poker, il faut vraiment que tu le regardes. C'est fantastique. Et j'invite tous les auditeurs à regarder ce film de toute façon. Même si vous n'aimez pas le poker, ça vous donnera envie d'y jouer. C'est extraordinaire. Donc, l'action va aussi pouvoir se passer ailleurs qu'autour de la table de poker. Le poker est là finalement pour résoudre l'action.
Le poker est là uniquement pour résoudre.
Voilà.
Les joueurs, par exemple, ils vont devoir dévaliser une. Pas dévaliser, juste mettre sous protection un diamant, des diamants.
D'accord.
Malheureusement, le système d'alarme est en panne. Donc, le boss, il leur demande à ses hommes de main d'aller chercher les diamants pour les mettre sous protection à la mafia. Comme ça, après, il va téléphoner au bougitier pour lui dire « Écoute, comme par hasard, devant chez moi, il y avait un sac de bijoux. Par chance, mes hommes étaient là. Par chance, ils m'ont donné ton sac. Du coup, ça serait bien, comme tu vois, on en avait parlé, mais ça serait de payer une petite mutuelle, une petite assurance pour éviter ce genre de désagrément. Parce que là, ça aurait été quelqu'un d'autre, ça serait perdu. »
D'accord.
C'est des petites choses comme ça. Ou alors,
des petits éléments, mais qui vont créer du jeu, finalement, entre les gens, etc. Okay.
Sachant que là, c'est des versions qui durent 2 heures.
Donc là, c'est ton nouveau jeu, en fait, parce que je vois aussi qu'il y a d'autres tableaux.
D'autres jeux,
il y a un jeu dont vous êtes le héros, donc Les Enfants de Chronos et Jeune Royaume. Tu peux nous parler rapidement de ces deux?
Alors, Les Enfants de Chronos, on joue des super agents du futur, d'accord? Alors, du futur proche, en 2040, qui ont été génétiquement créés pour se déplacer dans le temps. C'est des bébés éprouvettes. Et donc, ils sont embauchés par l'ONU, par un commissaire, pour effectuer des enquêtes dans le temps pour illuminer certains points obscurs de l'histoire, comme par exemple le meurtre de Kennedy, pour faire simple.
D'accord.
Donc là où on voit la pochette, ça se passe au Vietnam.
Ça me fait penser à Code Quantum.
C'est ça. Ça se passe au Vietnam et donc les gens sont amenés à retrouver la disparition du lieutenant Ryan.
D'accord.
Et donc ils vont enquêter par rapport à sa disparition. Évidemment, ils ont les rapports, ils savent à quel moment ils ont à peu près, il a à peu près disparu. Donc le but, c'est de savoir pourquoi il a disparu, comment ça s'est passé, etc. Et ensuite de faire un rapport au commissaire de l'ONU.
D'accord, ok.
Donc ils ont des cyber, etc. pour amener à bien le...
Là, pas de système de jeu de cartes.
Non, c'est du dé simple.
D'accord. Les Jeunes Royaumes, donc un autre jeu dont vous êtes le héros.
Et le vainqueur d'un concours de création de jeux de rôle. C'était Nouvelle Soupe, vieux pot, quelque chose comme ça.
Vieux pot, Nouvelle Soupe, voilà, ouais, oui, je me souviens de ce truc.
Et bref, Jeunes Royaumes, c'est les Stormbringers. Donc remis au goût du jour avec le système Apocalypse.
D'accord, ok. Donc ça s'appelle un jeu dont vous êtes le héros. Donc en fait, c'est ta gamme, c'est une gamme de bouquins.
C'est ça.
Et donc c'est auto-édité, tu es indépendant ?
Indépendant, tout à fait, auto-édition. Enfin, pour l'instant, c'est juste de la démonstration. Il n'y a pas de vente encore. Tout est librement téléchargeable sur mon site.
Donc on peut d'ores et déjà télécharger les PDF de tes jeux-là.
Voilà, tout à fait.
D'accord.
Le but, c'est de faire les 3C, c'est du Creative Commons, librement téléchargeable. On en fait après ce qu'on veut, ça je m'en fous.
Les 3C, c'est quoi ? Café, Club, Caca, c'est ça, non ? Non,
ouais, c'est ça.
Non, c'est autre chose, je crois. Creative Commons, c'est ça ?
Oui, Creative, c'est on prend, on échange librement, comme on veut. Ouais. On le modifie pas, on peut faire des ajouts, d'accord ? Par contre, on laisse le crédit à la personne qui a créé le jeu à l'origine.
D'accord.
Voilà. Normalement, il n'y a pas de vente, mais moi, de la vente, je m'en fous. Le mec, il veut faire de la thune sur mes jeux, il se fait de la thune, c'est pas grave. Moi, mon but, c'est vraiment de diffuser le jeu de rôle et donc de faire des jeux de rôle accessibles au plus grand nombre. Donc, c'est pour ça que j'ai fait un système poker. Je fais des systèmes de 2 heures de jeu, pas des longs systèmes de 6 heures, etc. Voilà.
C'est une entreprise de vulgarisation, en fait, du jeu de rôle derrière ton travail.
C'est ça, voilà.
En explorant aussi des thématiques très cinématographiques ou de séries, on l'a vu dans la présentation. Voilà. Ben, je te remercie, Patrick. Je vois d'autres jeux, t'as d'autres choses à présenter. Nous Zombies, là, c'est quoi ça ?
Donc, dans Nous Zombies, on joue des zombies.
D'accord.
Mais comme on peut voir sur l'affiche, à gauche, on a des zombies. Un peu comme à l'époque où il y avait des juifs qui étaient...
Oui, j'ai l'impression que c'est métaphorique.
Voilà, c'est ça. Bah, c'est la métaphorique du zombie classique, hein, de toute façon, où c'est le merchandising. Là, c'est plutôt le peuple juif ou le peuple noir, etc., qui sont attrapés par ceux qui ne sont pas comme eux et qui veulent les mettre dans des coins, etc. Donc là, c'est des zombies intelligents et non pas des zombies bêtes.
C'est intéressant, ok. Donc à travers une thématique un peu pulp, un peu populaire, t'abordes comme ça, petit sujet au passage, quoi.
Voilà.
La déportation, tout ça, bon, ça va, tout va bien.
Voilà.
Ouais, c'est cool.
Pareil, ça se passe de nos jours.
Ça a l'air intéressant. Donc voilà, je vais prendre une de tes cartes, là, Delmotte Patrick. Moi, je te connaissais sous le pseudonyme de Frog Eater. Ah oui, c'est ça, wayofthefrogeaters.com. Donc voilà, j'invite les auditeurs à s'y rendre. Merci Patrick, à bientôt.
Merci à toi, au revoir.
Ok, là j'arrive sur le stand d'un jeu qui s'appelle Complot, sous-titre La Guerre des Ombres, et si c'était vous qui tiriez les ficelles. Garrick, tu es l'auteur de ce jeu. Qui es-tu, Garrick, et qu'est-ce que c'est que ce jeu ?
Alors, donc moi je suis un rôliste depuis plusieurs années. Je découvre un peu tout ce qui est théorie du jeu de rôle depuis pas très longtemps, grâce au podcast de La Cellule, en discutant avec des créateurs de jeux...
Des créateurs fascinants, bien sûr. Très intéressant, passionnant.
Voilà.
Autopromo.
Exactement.
Autopromo. Je crois qu'on est en plein dedans là.
C'est ça. Voilà. Alors donc Complot, c'est un peu un jeu de rôle que j'ai créé un jour en me disant, il y a un style de jeu que j'ai encore jamais vu en jouant dans les jeux que je connais. Et j'ai envie de créer le jeu de rôle de mes rêves.
C'est généralement comme ça que ça commence.
C'est ça. Et mon envie, c'était de faire un jeu de rôle où on laisse aux joueurs le pouvoir un peu d'influencer vraiment l'univers, presque de dire « Bah écoute, MJ, ton scénar, je l'aime pas trop, j'ai mieux à te proposer que ce qui se passe. J'ai vraiment toute une intrigue à te proposer. J'ai envie de changer l'univers, j'ai envie de changer des choses. » Donc, du coup, je me suis dit, je voudrais faire un jeu de rôle où les personnages ont le pouvoir vraiment d'influencer l'univers, d'influencer le scénario autrement que bah, j'ai influencé l'histoire parce que j'ai réussi à tuer le méchant. Là, c'est j'ai réussi à changer l'histoire parce que j'ai réussi à prendre le contrôle d'un gouvernement, parce que j'ai réussi à changer complètement un aspect de la société. Enfin, donc là, je parle vraiment d'un peu des extrêmes, des plus grandes conséquences. J'aurais peut-être expliqué un petit peu l'univers, le background.
Vas-y, fais péter le background.
Alors, c'est un jeu de rôle, donc science-fiction, espionnage.
J'adore l'illustration de couverture.
Ah, eh bien, c'est un cadeau d'anniversaire de ma maman, ça lui fera très plaisir.
J'adore. Ouais. Je trouve, elle pose tout de suite plein de questions. On sait pas où. Enfin, c'est très intéressant, je trouve. Bah, ça fait penser, tu sais, aux vieilles illustrations, les toutes premières illustrations de Magic l'Assemblée.
Oui, un petit peu, c'est vrai, c'est vrai.
Il y avait un côté artistique sur les cartes de Magic l'Assemblée qui a complètement disparu. C'est aujourd'hui, ça. C'est vraiment devenu du travail d'illustration. On représente bêtement les créatures sans chercher finalement plus d'imagination que ça. Là, ça fait très onirique, ça donne envie en tout cas.
C'est ça.
Très froid aussi, la couleur froide.
Je dirais pas que Complot est un jeu qui est vraiment onirique, mais c'est un jeu qui peut être vraiment vu de façon très froide.
Tu sais, Chagall, tu connais Chagall, le peintre Chagall, c'est un type dont ses tableaux en fait sont fourmis de petits trucs qui se baladent et tout. Ça me fait un peu penser à une partie de jeu de rôle, les tableaux de Chagall, parce qu'il y en a partout, ça part dans tous les sens, tout le monde imagine un peu ce qu'il veut, tu vois. Et ben, ça me fait penser un peu à ça, quoi. C'est du contenu fictionnel malléable en fait qu'elle a illustré là.
C'est un peu ça en fait. Bah, elle m'a demandé qu'est-ce que tu veux comme illustration. Je lui ai dit, bon, alors, il y a un personnage clé de l'univers. Il est un peu à la tête d'un immense empire politique, commercial. Et je voudrais que tu me le représentes du haut d'un des buildings, du haut d'un grand building, en train de regarder la ville. Et on a l'impression que la ville, c'est son domaine. Maintenant, exprime-toi. Et donc, ben voilà, on obtient ça. Elle se dit, j'ai envie de mettre ça comme bâtiment. Je dis, ben vas-y, j'ai envie de faire ça. Et donc, c'est comme ça qu'on...
C'est vraiment sympa, les tours qui twistent là. Ça me fait penser à Dark City aussi, tu sais, ces scènes de syntonisation où tu vois tous ces gars qui se rassemblent pour créer la ville. Ouais, c'est vraiment, elle est vraiment sympa.
C'est à tout, donc les meneurs sont attendus dans l'amphi C. Les meneurs dans l'amphi C, merci.
Ouais, donc les meneurs sont attendus dans l'amphi C, donc il va falloir qu'on spin.
Ouais, c'est ça.
Donc comment tu mets en place le système avec cet univers-là?
Alors,
parce que là, du coup, un seul personnage qui domine le monde, et comment les joueurs vont influencer?
Alors, donc en fait, c'est pas exactement vrai. Il n'y a pas un seul personnage qui domine le monde. Donc l'univers de Complot, c'est un univers où il y a... Pour la personne moyenne, les choses n'ont pas énormément changé. On se lève, on va travailler, on va acheter plein de produits de consommation, on les utilise, on va se coucher, puis le lendemain, on recommence. Par contre, en secret, il va y avoir des grosses corporations multiplanétaires, il va y avoir des organismes secrets, des gouvernements, etc., qui essayent chacun de se tailler un peu leur part du gâteau, d'essayer de contrôler les autres, d'essayer de dominer les autres. Et le rôle des joueurs là-dedans, ils vont être des agents spéciaux de ces organisations. Ils sont déjà des agents d'élite, ils sont déjà très importants. Ils sont peut-être cadres plus dans leur giga planétaire. Ils font partie de certains de ces complots. Et à chaque fois, un scénario va être l'histoire d'un complot qui est en train de se développer, qui est en train de se déployer. Quelqu'un est en train d'essayer littéralement de dominer le monde. Et en général, les joueurs vont être envoyés en mission. Notre concurrent est en train de faire quelque chose, on ne sait pas encore trop. Puis finalement, on découvre que le concurrent est manipulé par une deuxième personne, qui elle-même est manipulée par une troisième personne, et on démêle tout.
Donc
ça.
Donc c'est quand même un jeu à mission, un jeu à enquête.
C'est un jeu à mission,
je dirais.
C'est ça, c'est un jeu à mission. Sauf que les joueurs ont tout à fait la liberté de dire, en fait, j'ai pas envie de complètement suivre la mission. Parce que bon, maintenant que j'ai identifié un peu qui tire les ficelles, je suis en train de me dire qu'il a déjà préparé toute la structure pour contrôler ce pays. Si je me débarrasse de lui, je peux récupérer les commandes de la marionnette et puis après je peux devenir le chef.
Et... C'est marrant, oui.
C'est ça. Et donc, par exemple, là, moi je viens de faire jouer une table où à la fin, les joueurs ont dit bon, c'est bien, on a compris qui étaient les coupables. Alors maintenant, les gens autour de moi, c'est pas exactement mes alliés. Je vais m'assurer de les écarter et moi je vais récupérer la mise à la fin et puis je vais faire gagner mon camp.
D'accord. Est-ce que tu pourrais nous parler du système de jeu ? Il y a un MJ, il y a des joueurs, c'est un jeu de rôle classique traditionnel ?
C'est un jeu de rôle vraiment classique. Un MJ, c'est lui qui a l'autorité. Il y a des joueurs, ils ont l'autorité sur leur personnage. Il y a un système de compétences, il y a quelques caractéristiques. La particularité, c'est que donc il va y avoir une gestion des ressources. Donc la faction dont on fait partie nous donne accès à des ressources qui vont dire, par exemple, alors moi je travaille pour une entreprise très influente, donc je peux plus facilement influencer d'autres entreprises. Je travaille pour un réseau d'espionnage, donc je connais des agents dormants, et le joueur va pouvoir à un certain moment invoquer ces joueurs, dire ah mais en fait ça tombe bien, moi je connais justement une taupe infiltrée dans la multiplanétaire martienne qui gère tout le marché de l'aéronautique. Ça tombe bien, il va pouvoir me dire ce qui se trame dans le milieu.
Tu as créé de la fiction pour résoudre des conflits, finalement.
C'est ça, il y a de ça. En plus, on a ajouté, pour répondre un peu à la question du est-ce que le MJ doit tricher ou pas. Je me suis dit, et si en fait on insérait cette histoire de triche dans le jeu. Donc, à un moment, les joueurs incarnant des personnages exceptionnels peuvent soudainement décider. Prendre l'autorité de la narration au MJ et dire « Alors en fait, il va se passer ça. » Et ça se passe. Il y a toujours une contrainte de cohérence dans ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... Soudainement, je découvre un téléporteur dans ma poche et je vais pouvoir aller disparaître à l'autre bout de la planète. Non. Mais par exemple, si on a un personnage qui est bloqué, par exemple, il est tout seul face à beaucoup d'ennemis, il peut dire soudainement « Alors... je me lève, je réussis à vider mon chargeur, à éliminer tous mes ennemis, j'ai réussi à fuir et en plus je suis même pas blessé, par exemple. » Et donc quand il fait ça, il va donner un jeton au maître du jeu et le maître du jeu aura le droit de rendre l'appareil grâce à ce jeton.
D'accord, ok. Ouais. Ça me fait penser un peu au système D4, où tu prends des avantages, mais tu vas subir des crasses quoi, à long terme.
C'est cela, mais là il ne s'agit pas de donner des bonus ou des malus. C'est vraiment, je deviens l'autorité de la narration,
oui,
je passe des dés.
Ce qu'on se dispute, c'est pas si une action réussit ou échoue, c'est la narration en fait.
C'est un peu la narration. C'est plutôt
narration disputée, comme dirait Grégory Priva dans Bimbo. D'accord, très bien. Donc, où est-ce qu'on peut trouver Complot ?
Alors, le livre de base est disponible gratuitement sur le site internet. Le site, c'est complot, avec un S, -jdr.fr.
D'accord. complot-6jdr.fr.
Voilà.
Donc. Et donc, du coup, là, on peut trouver le PDF du jeu.
Le PDF du jeu, dedans, il y a le système de règles, l'univers, un guide du MJ avec une description un peu plus détaillée de l'univers des gros PNJ clés, et un scénario d'initiation qui va donner un peu l'ambiance.
Oh putain, c'est déjà très complet, hein. Je vois ça, il y a déjà une centaine de pages en A4. Attention là les gars, on n'est pas dans... Attention, c'est déjà plus un petit jeu quoi, c'est vraiment... c'est écrit assez petit, de colonnes, bien mis en page.
Merci.
C'est bien. Donc ouais, non, ça a l'air intéressant tout ça. Bah écoute, merci Gary de nous avoir présenté ça. Alors ton vrai nom c'est Sébastien Martinez aussi, on peut peut-être te retrouver avec ce nom. T'as un compte Facebook, t'as quelque chose, on peut venir te poker, te liker, te tweeter, te retweeter.
Vous avez plus vite fait de chercher la page Facebook de Complot JDR en fait.
Ah, t'as une page Facebook, d'accord.
J'ai fait une page Facebook pour le jeu. Voilà, je pense que c'est plus facile de m'atteindre par là ou par l'adresse email qui est sur le site de Complot.
D'accord, très bien. Merci Sébastien. À bientôt.
À bientôt.
Ok, alors là je suis sur le stand de quelqu'un dont le nom est imprononçable. Tu me prononces ça.
LCH et AN.
LCH et AN. Alors qui est LCH et qui est AN ?
C'est moi et moi.
Ah, vous êtes nombreux dans ta tête.
En fait, on n'est pas tant que ça. Mais je suis en cours de diagnostic de schizophrénie.
C'est vrai.
C'est ça. Et donc, ça n'a rien à voir avec le dédoublement de personnalité, ni le trouble de la personnalité.
Mais c'est une thématique qui t'intéresse à titre privé et personnel.
Ouais, c'est ça, parce que tout le monde croit que c'est la même chose.
Non, pas vraiment, en fait.
Alors, c'est pas du tout la même chose. Et effectivement, il y a des gens qui le savent. Mais beaucoup de gens imaginent que les schizophrènes sont Mr. Jekyll et Mr. Hyde. Enfin, Dr. Jekyll et Mr. Hyde. et pas du tout, en fait.
En réalité, le schizophrène, si mes souvenirs sont bons, c'est plus comme Nash dans Un homme d'exception, c'est-à-dire que tu vois des gens éventuellement qui n'existent pas, qui tu peux parler, mais t'es pas sûr qu'ils existent, et compagnie, alors que le dédoublement de personnalité, c'est vraiment, t'as plusieurs personnalités, et pas uniquement deux, comme le grand pop dans Saint Seiya, mais plein.
C'est ça. Très bien résumé.
Mais moi je l'ai appris tard. Ça... Donc toi, tu es un authentique schizophrène, peut-être ?
Bah peut-être, parce que le diagnostic met plusieurs années et j'ai fait tout pour le ralentir. Parce que j'ai pas envie d'être sûr.
C'est génial. Donc L-C-H-E-A-N, c'est comme ça que ça se prononce.
C'est ça.
Tu as créé un jeu qui a tapé dans l'œil d'Emmanuel Meffray et qui s'appelle
Seeds of Darkness.
J'aimerais bien que tu nous en parles.
Alors, ce jeu s'inspire énormément d'un jeu vidéo.
Oh
mon Dieu.
Attends, comment il s'appelle ce jeu ? Il y avait un truc avec Darkness dedans.
C'est un point and click.
Putain.
Qui s'appelle Darkseid.
Ah non, je connais pas. Un point and click que je ne connais pas.
Un excellent point and click.
C'est récent ?
Pas du tout. Pas du tout, hein. On est au milieu des années 90. Si je ne m'abuse, on est en 96 ou 97. Et Mike Dawson, qui est le concepteur du jeu, s'allie à un petit graphiste un peu naze qui s'appelle Hans Rudi Giger.
Ah,
donc
ouais,
le créateur.
Un petit graphiste pourri. Ouais.
Voilà. Donc c'est une merveille pour les yeux, pour tout.
Tu m'étonnes.
Et le scénario.
Il déchire quoi.
Il déchire grave.
D'accord.
Voilà. Avec un personnage principal qui ne sait pas, qui oscille entre une réalité et une fiction glauque et morbide. Et il ne sait pas où il se situe. Et donc c'est forcément le point de départ d'une grande aventure.
D'accord, ok. Et donc du coup dans ton jeu de rôle, on joue de tels personnages ?
Alors, on peut jouer de tels personnages, mais on va surtout jouer.
On joue à quoi ? On joue dans quel univers ? Qu'est-ce que c'est ?
Alors, est-ce qu'on joue dans un univers ? On joue, oui, dans un univers au sens générique, mais on va plutôt jouer dans trois univers ou trois dimensions, où on peut les appeler comme on veut en fait. C'est trois mondes parallèles, admettons, et synchronisés. C'est-à-dire que chacun y a son représentant, donc un alter ego dans chaque monde, que ce soit le sous-monde, le monde ou le surmonde. Et là, je m'étends pas tout de suite sur l'aspect psychanalytique. Mais le joueur ne joue pas un personnage, il joue les trois alter-ego qui forment son personnage.
D'accord, donc tu joues trois. Finalement, tu es un joueur pour trois personnages.
C'est ça.
Dans trois mondes différents.
Exactement.
Le truc de ouf. D'accord.
Voilà. Ça peut rebuter, ça peut faire peur, mais je crois que d'expérience hein, dans les conventions ou dans les parties test, on s'y fait assez vite en fait.
Tu serais pas un fan de Philip K. Dick ?
Alors j'aime beaucoup Philip K. Dick, mais je ne me considère pas comme un fan.
D'accord. Ok. Comment on y joue ? Qu'est-ce qui se passe ? Enfin concrètement, qu'est-ce qu'on a ? On lance des dés ? Il y a un maître de jeu ? Il y a des joueurs ? Ça se joue comment ?
Alors on lance des dés.
Oh non !
Oh,
oh merde.
Non, c'est vraiment con, mais. Mais étant donné que c'est un jeu assez fétichiste, voire très fétichiste, au-delà des latex, des pantalons aiguilles et du cuir, des godemichés, etc., eh bien, le fétichisme du rôliste sont cédés. Celui qui ne marche pas, etc., etc. Et donc, on joue avec une panoplie de 9 dés, le D4, le D6, le D8, le D10, le D12, le D16, le D20, le D24 et le D30.
Ah oui, il les fallait tous, quoi.
C'est
vraiment.
Ça. Puis il fallait faire travailler les vendeurs de dés, comme la loutre rôliste qui est avec nous aujourd'hui.
D'accord, très bien.
Alors, ce n'est pas un placement de produit, on ne m'a pas payé, rien du tout. Hein. Mais voilà, et en même temps, ça offrait une plage de différence entre les joueurs assez forte, puisque les caractéristiques dépendent du dé. Mais avant de dépendre d'un dé, elles dépendent d'un mot, normalement.
D'accord, ok. Ouais.
J'ai une santé de fer, j'ai un tout petit dé. Parce que le but est de faire 5 ou moins sur une difficulté moyenne.
D'accord, ok. C'est un jeu avec un meneur de jeu, des joueurs ?
Ouais, alors encore une fois, ça va être terrible, c'est nul. Il y a un meneur de jeu.
Oh là là, là là, vraiment.
Mais pas c'est tout très... le temps. Il y a certaines phases de jeu où où des éléments vont être mis sur des cartes, les cartes distribuées aux joueurs, ce sont les rêves. Et il y a une carte qui ne correspond pas à un élément de la fiche de personnage du joueur dont on joue le rêve. Mais chaque joueur autour de la table et le meneur de jeu à son tour raconte une partie de ce rêve et doit y insérer ce qui est sur la carte.
D'accord, ok. C'est édité comment, c'est, on le trouve où?
Alors on ne le trouve pas, on ne le trouvera qu'en 2019 normalement si je ne prends pas de retard. Mais là mon jeu qui devrait être sorti en 2013 est toujours sur le four, donc
et on peut déjà le trouver en PDF quelque part? Il y a des Ashcan qui traînent ou pas du tout?
Pas encore. Normalement ça devait arriver pour cette convention. Donc je ne désespère pas de produire un, voilà,
mais en tout cas contenu. Tu le fais tester ici à Eclipse et on peut donc y participer. Emmanuel m'a dit en tout cas que tu lui avais tapé dans l'œil, que ton jeu lui avait tapé dans l'œil. Elle m'a demandé, elle m'a dit, est-ce qu'un jour on testera sur la cellule ou pas. Je pense qu'à mon avis on va avoir un playtest ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas si tu as fourni à Emmanuel de quoi jouer, mais...
Alors non, pas du tout. Mais
il avait l'air d'être convaincu.
Ouais, c'est l'essentiel.
Bon, bah c'est bien.
Mais j'avais déjà assuré que voilà, mon premier jeu, Astraeman Maginelotai.
Quoi? Tu peux répéter ça?
Astraeman Maginelotai.
Astraeman Maginelotai.
Ah, c'est facile.
C'est du tout. Non, attends. Donc, déjà, t'as un pseudo imprononçable. D'accord?
Oui.
Et là, t'es en train de nous faire un jeu avec un nom imprononçable?
Oui, c'est
comment
c'est...
tu comptes les vendre après?
Bah, en fait, je ne compte pas les vendre.
Ah.
Idéalement, j'aimerais les donner, mais ça ne nourrit pas son âme.
Non, pas vraiment.
Mais en même temps, le jeu de rôle entier ne nourrit pas son âme. Bon, moi, je suis plasticien à la base, hein, et j'ai tellement peu de commandes que de toute façon, je suis magasinier dans une clinique.
D'accord, ok. Voilà. je comprends, je connais ça. D'accord, ok, très bien. Ouais, c'est intéressant. Sur ta carte, on trouve une adresse mail, l.ch.a.n@hotmail.fr. Donc si vous voulez comme ça vous adresser à notre ami L, C, H et Anne, je suis désolé, je vais faire vraiment beaucoup de mal avec ton pseudo.
C'est pas grave, on peut le torturer autant qu'on veut, voilà. Puisque de toute façon ce n'est pas une vraie identité.
Et donc je vois que tu habites à Caen. C'est pas
oui,
une vraie identité.
Je suis canet.
T'es complètement barjou, je t'adore. donc, tu habites à Caen, donc si vous habitez sur Caen ou si vous passez sur Caen, si on t'envoie un mail et qu'on veut faire un playtest...
Il n'y a aucun souci.
Ok, c'est cool. Bah, je te remercie, l'ami. Et puis, bah,
c'est
à
moi
plus
qui
alors, du coup. Hein. Salut.
À bientôt.